Bonjour, bon dimanche. Je vous invite aujourd'hui à un voyage vers ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous, l'intime. Ce domaine personnel que nous connaissons mal, tant il est enfoui en nous. L'occasion nous en est donnée par la publication récente d'un livre de François Gachou, « Explorer l'intime au cœur de nos jardins secrets ». Afin de laisser assez de temps à l'auteur pour expliquer son propos, je me contente de rappeler que François Gachou, ancien professeur au Collège du Sud à Bulle, que nous avons déjà reçu plusieurs fois sous ce coin de ciel, poursuit une réflexion philosophique sur des thèmes importants, tels cet intime dont il nous parle maintenant. Je vous invite à l'écouter. François Gachou, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi la forme de l'entretien ou du dialogue et pourquoi tu as créé ces deux personnages, Emmanuel, le philosophe à la retraite, et cette jeune Philokalia, qui porte un beau nom, qui signifie l'amour de la beauté. Même si ce nom ne fait pas partie de la liste des prénoms féminins grecs, on pourrait peut-être penser qu'après avoir lu ton livre, quelqu'un le donnera à sa fille.
L'idée de composer ce livre comme une conversation m'a paru évidente afin de rendre le plus accessible possible la réflexion sur ce qu'est l'intimité, parce que ce n'est pas si facile à exprimer. Et il m'a paru intéressant, opportun, de choisir la forme du dialogue pour une autre raison. C'est que le dialogue dynamise le texte et permet à l'interlocutrice qui interroge le professeur à la retraite, Emmanuel, qui va déployer ce parcours, à vrai dire philosophique, sur l'intimité, de rendre le texte plus vivant. Et je pense que le lecteur, lisant l'ouvrage, va se sentir partie prenante de ce dialogue en étant lui-même comme un participant à l'évolution de la pensée qui se dessine entre cette étudiante et ce professeur, car cette étudiante ne fait pas que poser des questions. Elle intervient assez souvent, non seulement pour donner son avis, mais pour développer elle-même certaines réflexions utiles à la progression du texte.
Le titre du livre, Explorer l'intime, indique bien que tu as choisi un thème qui ne paraît pas évident au premier abord. La lecture de ce livre très riche pose des questions, bien entendu, fournit beaucoup d'éléments de réflexion. On va peut-être en récolter quelques miettes. Et surtout, moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le thème de l'intime.
Pourquoi ce choix ? Parce qu'expérimentalement, j'ai, au cours du déroulement de ma vie, été appelé à me poser cette question : qu'est-ce qui constitue l'être humain comme un sujet de sa vie propre ? Car il est propre à l'être humain de tracer lui-même la trajectoire de sa vie, parce qu'il est libre, et il est libre aussi de donner un sens à cette trajectoire. Et je crois que la plupart des êtres humains savent de manière immédiate et quasi innée que chaque vie appartient au sujet que nous sommes. Il n'y a donc pas de singularité de vie identique. Et donc je me suis dit, comment explorer, c'est-à-dire défricher le territoire de l'intimité, sinon en essayant de faire parler ce qui est subjectif en nous, ce qui est vraiment très personnel, qu'on appelle donc singulier. Car finalement, si on y réfléchit un petit peu, la connaissance scientifique ne nous dit jamais rien sur l'intimité du sujet que nous sommes. Elle essaye de démontrer qu'il y a des lois dans la nature et dans l'univers. Nous en faisons bien sûr partie, par exemple la loi de Newton de la gravitation ou la loi de la relativité d'Einstein ne s'occupe absolument pas des sujets intimes que nous sommes. Et la connaissance philosophique, lorsqu'elle aboutit à des concepts qu'on appelle universels, c'est-à-dire qui s'appliquent à tous les hommes, ne s'occupe pas non plus de ce qui me concerne moi très personnellement et qui concerne peut-être pas mon voisin qui, dans sa subjectivité, fonctionne différemment de moi. Je crois qu'il faut distinguer, comme en science et en philosophie en général, ce que sont les choses qu'on définit. Si je dis par exemple article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes sont nés libres et égaux en droit et en dignité, je dis tous les hommes, je ne parle pas de l'intime et de la subjectivité, je n'y entre pas. Donc, il s'agit de savoir, si on veut parler d'intime, comment nous nous éprouvons nous-mêmes, vivant avec cette intimité qui se trouve au fond en nous, mais qui est cachée et qu'il s'agit de dévoiler.
J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce mot intime. Ce mot dit quelque chose à n'importe qui d'entre nous. Essaye quand même de nous expliquer quel est le contenu de ce mot. Je ne dis pas de ce concept, mais finalement de cette expérience.
Prenons peut-être un exemple simple. Si vous êtes malade du cœur et que vous devez subir une opération comme un pontage coronarien, votre chirurgien, avec sa science, son expérience de médecin, va travailler sur un organe qu'il répare, le cœur. Mais il ne s'agit pas du tout du cœur au sens courant qui nous est proche, à savoir le cœur qui bat quand je suis, par exemple, amoureux de quelqu'un, le cœur qui bat quand j'aime mes enfants, ou le cœur qui bat quand, devant la beauté d'un spectacle ou d'un visage, je sens mon émotion intérieure, intime, monter en moi. Le chirurgien, sous son scalpel, ne détecte rien d'autre, mais en tout cas pas ma personnalité, mes sentiments, mes émotions, mes pensées. Il n'atteint pas ma conscience, mon âme, car du dehors, ça n'est jamais possible. Le monde de l'intimité n'appartient qu'à nous, très personnellement. Et donc je dirais que l'intime, si je voulais en faire une sorte de définition, pas générale mais qui s'applique à chacun, c'est le lieu le plus profond de l'être humain. Mais c'est aussi le lieu le plus enfoui, le plus secret. Peut-on, vous et moi, entrer dans l'intimité de la conscience de quelqu'un, de son âme? Ce n'est jamais possible. Même si, dans un couple, on vit ensemble durant plusieurs années, de l'extérieur, on ne saura jamais ce que ressent dans sa conscience ou dans ses émotions la personne avec qui l'on vit. C'est quelque chose d'impénétrable à autrui de l'extérieur. Et j'irais même jusqu'à dire que nous ne connaissons nous-mêmes pas complètement le fin fond du fond de notre propre intimité, parce qu'il y a là tant de choses présentes que nous sommes seuls à pouvoir éprouver. Il y a dans l'intimité, déjà au niveau des sensations externes et internes, des données qui n'appartiennent qu'à nous. Il y a des passions, il y a des désirs, il y a des émotions, des capacités de former des images, il y a la mémoire, il y a notre conscience propre. Si on prend l'exemple de la mémoire, imaginons que nous n'ayons pas de mémoire et que nous la perdions. Nous ne saurions même pas que nous avons toute une histoire vécue, histoire qui est différente de celle de mon frère ou de ma sœur ou de mes parents, et qui fait que nous avons des repères d'une intimité et d'une vie intime qui a toute une trajectoire. Alors la question qui se pose maintenant, si on part de cette approche, c'est celle-ci: où trouver le point d'ancrage de l'intime? Où trouver le fondement de cette vie si subjective qui n'appartient qu'à chacun de nous individuellement? Et donc la question que je poserai, c'est celle-ci: quelle est la seule manifestation de notre existence qui n'est jamais extérieure à nous-mêmes, mais qui est toujours intérieure à nous-mêmes? Quelle est cette manifestation qui n'est jamais extérieure à soi? Je répondrai tout simplement la vie elle-même. Parce qu'après tout, comment savons-nous que nous existons? parce que nous sommes en vie. Et comme disait Oscar Wilde, vivre est sans doute la chose la plus précieuse à chacun de nous, et hélas, la plupart des gens se contentent simplement d'exister sans même réfléchir à qu'est-ce que c'est cette vie qui est en moi et que je puis conduire en plus moi-même. Donc la vie est quelque chose à la fois de très simple, puisque nous sommes dedans, mais c'est quelque chose dont il est difficile de parler, parce que la vie n'est jamais extérieure à elle-même. La vie ne peut pas sortir d'elle-même et se projeter dehors comme un objet que j'observe. Je ne peux pas faire de ma vie une chose que je pose hors de moi sur la table et l'ausculter comme fait un médecin sur un organe corporel visible. Mais parce que la vie me constitue de dedans comme sujet. Et de plus, je dois ajouter, car vous en conviendrez, c'est évident, nous ne pouvons pas nous séparer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous séparer de notre propre vie. Et l'exemple le plus fort que l'on puisse donner, c'est la conscience. La conscience que nous avons de nous, et qui est en nous, bien entendu, elle nous accompagne dans tous les actes de notre vie, sauf quand nous dormons, parce qu'alors elle est mise entre parenthèses un moment, mais elle est toujours là, et dès que je me réveille, je suis conscient que j'existe. Je suis conscient que je suis en vie, et je sens que je suis en vie, et je ne peux pas me séparer de ma conscience. Nul non plus ne peut entrer dans une conscience pour savoir ce qui s'y passe. L'exemple le plus simple qu'on puisse donner est celle d'un condamné en justice. Il est condamné, mais il est innocent. Comment peut-il prouver qu'il est innocent ? Il ne le peut pas, parce que personne ne peut savoir, au cœur même de sa conscience, s'il est coupable et innocent. C'est simple, mais c'est une preuve évidente qu'on n'entre jamais dans la conscience intime d'une personne humaine singulière.
Ce que tu dis sur l'intime me pose deux questions. Tu dis l'intime, c'est invisible, c'est quelque chose qui n'apparaît pas aux autres et qui apparaît même parfois difficilement à soi-même. Et pourtant, c'est quelque chose qui est réel. Et puis, ce qui est invisible, est-ce que je peux le communiquer ? Est-ce que cela peut être une base de communication avec l'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette vision de l'intime, comme le risque de créer un refermement sur soi-même qui empêcherait justement cette communication ou cette communion ?
Oui, je vais essayer d'abord de répondre à la première question qui concerne en fait l'invisibilité de l'intimité de la vie elle-même de chacun, puisqu'on ne peut pas y entrer du dehors. Donc évidemment que ça pose la question de la communication, mais avant d'en arriver à cela, j'aimerais dire quelque chose d'assez simple. Puisqu'on ne peut pas voir la vie intérieure de quelqu'un d'autre que soi, et que cet autre ne peut pas entrer dans mon intimité, il faut se demander au fond... Pourquoi ? Eh bien, la raison, je la donnerai en prenant un exemple. Nous conviendrons tous que pour exécuter une symphonie, il faut des instruments. Mais, j'ajouterai immédiatement, que serait cette symphonie s'il n'y avait pas de créateur de la musique ? Si Mozart n'avait pas existé et n'avait pas écrit une quarantaine de symphonies, les instruments n'auraient servi à rien parce qu'on n'aurait pas pu exécuter cette musique. Alors, les instruments, c'est des moyens nécessaires, et ça, c'est du domaine du concret, du visible. Mais la création de la musique, de ces mélodies que les instruments nous communiquent, c'est parfaitement invisible parce que c'est dans le génie de Mozart que se trouvait cette musique, même si... Il se trouve que par les instruments, on peut entendre. Mais quand vous écoutez une symphonie, vous savez très bien qu'immédiatement, ce que vous entendez se transforme en vous en une émotion, car la musique parle. Si c'est le Requiem de Mozart, vous allez éprouver la tristesse infinie de Mozart qui évoque la mort. Et puis, si c'est une symphonie joyeuse, vous allez éprouver de la joie. Donc, la musique est un état d'âme en nous qui est parfaitement invisible et intérieur. Mais c'est très réel. La raison pour laquelle on pourrait dire ceci, en appliquant ça à l'être humain comme sujet, comme les instruments ne sont rien sans la musique et le génie créateur du compositeur, le corps visible n'est rien sans la vie intérieure qui nous habite. Et donc, les philosophes, le premier qui l'a énoncé, c'est Aristote, nous enseignent à juste titre que tout être humain est composé d'un corps, bien entendu, matériel, dans l'espace, dans le temps, mais surtout d'une âme, c'est-à-dire de cette vie invisible qui anime ce corps, car âme veut dire animation d'une matière corporelle. Et donc, il y a en nous tous un souffle de vie qui nous a été donné, qui respire en nous constamment du dedans. Et nous ne pouvons que l'éprouver, nous pouvons faire des théories sur la vie, mais faire une théorie sur la vie, ce n'est pas éprouver intimement ce que nous vivons. Pour en venir à la question 2 que tu posais, je répondrai ceci. L'intimité est-elle communicable ou incommunicable ? Elle est communicable parce que l'expérience majeure que nous faisons, c'est celle de l'amour. Nous sentons tous et nous nous éprouvons tous quand nous aimons comme quelqu'un qui vit vraiment une certaine joie d'exister. Et l'auteur qui en a le mieux parlé, à mon sens, et simplement, c'est Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il développe ce qu'il appelle le sentiment de vie à l'état pur, il nous dit « c'est le bien le plus précieux auquel nous sommes attachés » et il a cette formule qu'on peut estimer remarquable, « la vie se donne à nous et elle nous donne à nous-mêmes ». Ce que veut dire Rousseau, c'est que nous ne sommes pas notre propre origine. Nous ne nous sommes pas nous-mêmes donné la vie. Nos parents nous l'ont transmise, oui, mais nos parents eux-mêmes l'ont reçue. Donc, la vie nous précède toujours. Sa donation, si nous en prenons conscience, fait que nous ne pouvons pas faire autrement que de nous aimer nous-mêmes. L'amour de nous, c'est l'amour de la vie en nous. Et comme dit Rousseau, la seule passion qui est née avec l'homme en même temps que nous, et qui ne nous quitte jamais, c'est l'amour, l'amour de soi-même. Et il dit, c'est une passion antérieure à toute autre, elle est innée, et toutes les autres que nous éprouvons dans la vie sont des émanations de cet amour premier. Alors vous me direz peut-être, oui, mais alors l'amour de soi s'oppose-t-il à l'amour d'autrui ? Et c'est là que vient la question de la communicabilité ou de l'incommunicabilité. Je répondrai simplement ceci. Si j'ai vis-à-vis de l'autre une attitude purement possessive, si je réduis, quand j'aime un autre ou une autre, je le réduis à mon bon plaisir pour le dominer, pour en dégager un plaisir en le traitant comme une chose, par égoïsme, alors oui, l'amour de soi s'oppose à la communication avec autrui et à l'amour d'autrui. Par contre, et inversement, si je m'ouvre à l'autre, pour lui vouloir du bien comme je le veux à moi-même, alors cet amour est fructueux, alors cet amour se communique, c'est-à-dire que deux intimités peuvent communier dans l'amour. Et c'est certainement ce qui se passe dans les couples qui s'aiment réciproquement.
Parler de l'intime, c'est aussi confesser l'intime, et on pense naturellement à ces œuvres qu'on appelle confessions. Tu as fait allusion tout à l'heure à Jean-Jacques Rousseau, qui fut lui-même auteur de Confessions célèbres, mais j'aimerais que tu remontes à son modèle, ou à celui qui a probablement incité Jean-Jacques à écrire ses confessions, c'est-à-dire à saint Augustin. Se confessant ou confessant, c'est difficile de le dire, dans ce livre, il atteint nécessairement l'intime, il atteint son intime, mais il atteint aussi l'intime de l'autre, et l'autre ici est Dieu.
Oui, Augustin, le premier, a posé cette grande question. Dieu peut-il être intime à l'être humain ? Et ce qu'il y a de remarquable dans ce livre inoubliable que sont les Confessions, c'est qu'il raconte toute l'expérience de sa vie d'un point de vue intime, et cette expérience aboutit à la découverte de Dieu comme intime à l'être humain. Il faut savoir qu'Augustin, dans sa jeunesse, alors qu'il avait une mère chrétienne pieuse qui regrettait un peu son comportement, Augustin jeune a poursuivi une quête effrénée de plaisir, de consommation de plaisir charnel, mais il a fait l'expérience qu'elle le laissait insatisfait, et prenant conscience que cette errance qu'il pratiquait dans le relatif laissait son âme dans un sentiment de frustration, de fragmentation, il s'est demandé, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis en quête de ces choses qui nourrissent pas mon âme? Et c'est alors que, lisant lui-même la Bible sur conseil de sa mère, il s'est mis à se rappeler qu'au fond, dans la Bible, on ne présente pas Dieu comme ce qu'il faudrait prouver au sens où on démontrerait qu'il est un absolu, mais il découvre que Dieu, dans la Bible, dès le premier chapitre du livre de la Genèse, se présente comme le donateur de vie. Il se présente dans l'acte par lequel il crée la vie en l'homme. Et il est dit aussi que, en créant l'homme, Dieu le fait à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait comme donateur de vie, au sens où l'homme tient directement de son Créateur cette vie, et la vie qui est en nous participe à la vie même de Dieu, dès là que nous avons été créés par lui, si nous y croyons. Autrement dit, ça veut dire que le souffle de la vie divine en créant l'homme fait de lui un être de chair et d'esprit, mais cet esprit souffle, c'est l'esprit même du Créateur. Au fond, c'est ça qu'Augustin va découvrir. Mais pour le découvrir, Augustin a compris que, comme il le dit dans ses Confessions, il ne faut pas que je continue à disperser ma vie au dehors dans les plaisirs, il faut que je rentre au-dedans de moi-même, car c'est en ce centre que je pourrai découvrir celui qui m'a donné la vie. Donc la conversion d'Augustin, car il va se convertir et découvrir Dieu dans l'intime de sa propre conscience, cette conversion est tout simplement pour lui le retour vers un Dieu de vie qu'il habitait déjà, mais dont il avait perdu la trace. Autrement dit, la découverte de Dieu va se faire non seulement au cœur de sa subjectivité intime, mais il va comprendre que Dieu, au fond, puisqu'il est ce donateur, créateur de vie, il est déjà présent en Augustin, au fin fond de son intimité, mais il est caché. Augustin a une très jolie formule, il dit que Dieu était en sommeil dans sa propre mémoire et que cette mémoire était encore inconsciente de cette présence. Et au fond, Augustin, bien avant la découverte de l'inconscient de la psychologie freudienne, a eu l'intuition d'un inconscient en nous que nous pouvons découvrir à travers notre intimité, à condition que nous ne refoulions pas la présence de Dieu en nous, parce qu'il est déjà là, il habite déjà l'âme. Et je me permets de citer deux, trois phrases d'Augustin. Au livre 7, chapitre 10 des Confessions, Augustin résume lui-même sa découverte de Dieu. Il s'adresse à Dieu en ces termes. « Étant averti de faire retour sur moi-même et mon intimité, j'entrai dans mon intime sous ta conduite, Dieu, et je l'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien. J'y entrai et, très belle phrase, il écrit, je vis avec l'œil de mon âme, au-delà de mon intelligence, ta lumière immuable. » Autrement dit, il est impossible avec des mots de traduire ce qui dépasse l'être humain, mais qui est déjà présent. Chez Augustin, Dieu n'est pas découvert par une quelconque démonstration rationnelle qui aboutirait à prouver son existence. Il est découvert dans l'expérience de la quête de l'intime que Augustin fait. Et c'est la raison pour laquelle, au livre des Confessions, la toute première phrase du livre, c'est ceci. Il s'adresse à Dieu et il dit « Tu nous as fait pour toi, élan vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » C'est une idée fabuleuse. Ça veut dire que nous pouvons chercher durant toute notre vie, nous ne trouverons jamais le repos si nous ne touchons pas au cœur de notre intimité la présence de Dieu comme donateur de vie, raison pour laquelle Augustin termine avec cette formule extrêmement connue et très célèbre, en s'adressant à Dieu, il dit « Tu étais plus intérieur à moi-même que mon intimité, et bien au-dessus, au-delà de mes propres aspirations humaines. » C'est évidemment pas une démonstration que Dieu existe, mais c'est le chemin d'une présence toujours continuée. Et comme disait Blaise Pascal qui a repris le thème, « Tu ne chercherais pas Dieu si tu ne l'avais pas déjà trouvé. »
À la fin du livre, Emmanuel et Philokalia s'aperçoivent qu'ils n'ont pas parlé du rapport entre l'expérience de l'intime et la mort. Alors, étant donné qu'il s'est passé des événements dramatiques entre-temps, entre leur rencontre et la fin de ces entretiens, les attentats terroristes de novembre 2015, ils évoquent alors la mort, mais je dirais plutôt la mort infligée, la mort destructrice de l'autre, destructrice de l'intimité de l'autre. Ma question, c'est, est-ce que la mort naturelle, comme disent certains, est-ce qu'elle n'est pas une blessure irrémédiable à la communion de l'amitié ou de l'amour d'un couple, c'est-à-dire de leur intime ?
Oui, c'est une question à la fois profonde et vaste. Mais avant d'essayer d'y répondre, je voudrais en effet souligner qu'à la fin de ces entretiens, j'ai voulu aborder la question du djihadisme et des innocents massacrés pour une raison très simple. Je me trouvais moi-même à Paris, près de la place La République, quand il y a eu l'attentat du 13 novembre 2015. J'ai vu de mes yeux vus, ces innocents mourir sur le pavé. Alors cela étant, ce que tu dis à propos de la mort naturelle, lorsque par exemple dans un couple, l'un doit faire le deuil de l'autre qui n'est plus là, évidemment que l'intimité est concernée. Je citerai volontiers ici, mais c'est au niveau de l'amitié, l'expérience de Montaigne. Montaigne, écrivain qui était très lié à un ami qui lui était très cher, qui s'appelait La Boétie, a fait le deuil de cet ami parce que La Boétie est mort de maladie précoce. Et Montaigne témoigne dans ses essais de ce que ça lui a fait. Il l'exprime comme un arrachement à son intimité et il dit « Depuis qu'il est mort, je n'existe plus qu'à demi ». Je n'existe plus qu'à demi. Et je pense que les couples qui vivent cette séparation de leur mari ou de leur femme doivent ressentir la même chose. C'est une blessure profonde parce que la mort casse le partage de l'intimité qui a probablement nourri la vie de ce couple. En ce sens-là, c'est une blessure. En tant que telle, la mort est toujours une séparation douloureuse. Cependant, je crois que, et cela dépend des convictions religieuses que chacun peut avoir, si dans le christianisme, et je prends cet exemple puisque je suis chrétien de conviction, si dans le christianisme, le sens même de cette religion est la résurrection du Christ comme victoire sur la mort, et que celui-ci envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle et la joie future promise de la résurrection, alors la résurrection peut être une réponse à la mort qui n'est plus la fin, mais le passage douloureux de la séparation vers une vie où nous retrouverons ceux que nous avons aimés, puisque le message du Christ se termine par cette promesse, raison pour laquelle l'espérance chrétienne l'a toujours prêchée, répandue.
Merci à François Gachou de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qu'il y a de plus intime, de plus profond en nous. Je vous rappelle le titre de son livre « Explorer l'intime au cœur de nos jardins secrets » aux éditions La Source Vive. Vous le trouvez en librairie. Vous pouvez obtenir un enregistrement de cette émission en téléphonant au 026 422 18 91. Je vous souhaite un beau chemin d'avant vers la fête de la Nativité. Bon dimanche.